Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Jean Tonelli.
La Ligue des optimistes de la Principauté de Monaco a organisé sa première soirée sur le thème « L'optimisme » ou « Quand les enthousiastes font bouger le monde ». Une rencontre avec le professeur Philippe Gabillier, qui est professeur de management et de leadership à ESCP Europe Paris, mais qui est aussi le président de Talents Optimistes et vice-président de la Ligue des optimistes de France.
En ces temps où le pessimisme est de rigueur, que les radios nous assènent des chiffres de crise, de catastrophe, Ebola et le reste, vous restez éperdument optimiste ?
Non, pas éperdument, mais je veux dire, les mauvaises nouvelles n'ont rien à voir avec le pessimisme. Vous savez, les mauvaises nouvelles sont un fait. Je dirais, c'est un fait qu'il y a des grandes épidémies dans le monde. C'est un fait qu'il y a une situation économique dans beaucoup d'endroits va pas bien. Donc, voilà, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait. C'est-à-dire que le point de vue pessimiste, en lui-même, il consiste à dire que ça ne peut que continuer à se détériorer. Donc le pessimiste, en fait, il ne voit pas tellement le mauvais côté des choses, mais surtout, il vous dit que ça va continuer à se détériorer, tout est fichu, etc. C'est ça qui est dangereux. Et c'est surtout dangereux dans des environnements, je pense à nous, par exemple, je prends l'exemple de l'Europe de l'Ouest, la France, Monaco... Qu'on le veuille ou non, ce sont des environnements extrêmement privilégiés par rapport au reste du monde. Donc il y a une certaine indécence, effectivement, il y aurait une certaine indécence à avoir une posture déprimée, on déplore la façon dont le monde évolue, etc. Il faut voir, on a une vie dont nos arrière-grands-parents auraient rêvé. Et en revanche, l'optimiste militant vous dit, le monde dans lequel on vit est loin, loin, loin d'être parfait, il y a même des tas de problèmes. Mais ce qui caractérise le monde dans lequel nous vivons, et ce qui n'était pas obligatoirement le monde d'il y a un siècle et demi, parce qu'on se déplaçait moins vite. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde de ressources. Il y a des ressources de connaissances, d'informations. C'est un monde de solutions innovantes. On invente en permanence, de par le monde, des solutions nouvelles, en permanence. On est dans un monde aussi où contrairement à il y a un siècle ou deux, un nombre croissant de gens ont des marges de manœuvre dans leur vie. Vous savez, la plupart du temps, même dans la région ici, tout comme chez moi, dans le sud de la France, je dirais, il y a un siècle et demi, la plupart des gens, ils naissaient, ils grandissaient, ils mouraient dans un rayon de 30 km autour de leur lieu de naissance. Tout ça est terminé. Donc tout ça a tellement bougé. On vit dans un monde de possibles. Et c'est Edgar Morin, quand on lui dit d'ailleurs, on lui dit « Mais vous êtes un optimiste ou un pessimiste ?» Et Edgar Morin répond toujours « Moi, je suis un possibiliste. » Et c'est ça, toute l'idée est là. C'est-à-dire que les optimistes militants sont des hommes et des femmes qui sont capables d'avoir un regard critique sur le monde en disant « Les choses ne vont pas bien, voilà pourquoi. » Mais en même temps, il y a une espèce de posture de l'esprit, une posture éthique qui dit « rien ne mérite que l'on renonce ». Il faut toujours se battre jusqu'au bout. Il faut trouver des solutions, regarder les points forts des gens, des sociétés. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais ça crée l'énergie collective pour peut-être donner envie à d'autres d'inventer de nouvelles solutions, de capitaliser sur de nouvelles forces, etc. Toute l'idée, en fait, est là.
Et par rapport au management, est-ce que cette notion d'optimisme a une réalité dans l'entreprise, vous pouvez avoir une réalité dans l'entreprise.
Alors, elle a une réalité dans certains métiers. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des fonctions de l'entreprise. Je pense entre autres aux fonctions commerciales, de développement marketing, de recherche et développement, de services, qui sont des fonctions qui doivent, auprès des hommes et des femmes qui les incarnent, porter ces idées. Regardons nos forces, où peut-on aller, inventons des solutions. Il existe en revanche des fonctions dans les entreprises qui nécessitent beaucoup de prudence et de précaution et où on préférera, à juste titre d'ailleurs, avoir un pessimisme mesuré. Vous voyez, le contrôle de gestion, la comptabilité, voire la gestion de la sécurité sur un site un peu dangereux. On n'a pas du tout besoin d'avoir des optimistes à ce niveau-là. On a besoin d'avoir des gens qui sont responsables. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, le pessimisme et l'optimisme se rejoignent là-dessus, c'est que dès l'instant où le pessimiste et l'optimiste deviennent des hommes et des femmes responsables, ils ne peuvent qu'être amis. Ce qui pose problème, c'est quand l'optimiste rejette le pessimiste et inversement. L'optimiste qui rejette le pessimiste, c'est ça devient sans souci la violette, c'est un utopiste. Le pessimiste qui rejette l'optimiste risque effectivement de sombrer dans la dépression la plus profonde. Contrairement à ce que les gens croient, l'optimisme et le pessimisme ne sont pas en fait en contradiction, ils sont, comme aurait dit Jung, en polarité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que ce sont deux forces tout à fait positives, mais qui doivent être utilisées à bon escient. Moi, j'ai l'habitude de dire, le pessimisme, par exemple, est sûrement un très bon serviteur, mais c'est vrai que c'est un mauvais maître. C'est-à-dire que quelqu'un qui fonctionnerait en mode pessimiste tout au long de sa vie finirait par être malheureux. Mais sachant que, vous voyez, à l'échelle d'une vie humaine, l'objectivité nous oblige à reconnaître qu'à notre échelle à nous, par exemple, c'est vrai qu'au bout du compte, à la fin de l'histoire, c'est le pessimiste qui aura raison. Oui. Mais, comme je dis toujours, entre-temps, l'optimiste aura quand même beaucoup plus profité du voyage.
Exactement. Donc un chef d'entreprise doit être optimiste, puisque vous dites que c'est un bon maître l'optimiste,
oui.
Et que le pessimiste est un bon serviteur.
Et il doit surtout être optimiste, le chef d'entreprise. En tout cas, c'est difficile, on ne peut pas décider de se lever le matin en ayant un caractère qui n'est pas le sien. En revanche, on peut décider d'adopter une posture parce qu'on la doit aux gens qui sont autour de nous. L'entrepreneur, c'est un homme ou une femme qui est sous le regard des autres. Le regard de ses collaborateurs, le regard de son banquier, le regard de ses clients parfois. Et la façon dont il va réagir va avoir un impact colossal sur la façon dont les gens autour de lui vont décider ou non de se mobiliser pour l'action. Moi, il m'est même arrivé de dire parfois à des dirigeants d'entreprise qui me disent « Oh, vous savez, moi, c'est comme ça, je ne suis pas optimiste. » Je dis « Écoutez, mais monsieur, madame, vous n'êtes pas optimiste, mais qu'à cela ne tienne, faites semblant. » Faites semblant, c'est-à-dire, et ayez cette posture. Je dis une posture comme on parle du yoga. Vous voyez, mais je dis souvent, le yoga, quand on réfléchit bien, on prend des postures quand on fait du yoga qui sont complètement non naturelles. On se dit, mais pourquoi je me suis inscrit à ce cours ? Mais on dit, mais pourquoi je suis là ? C'est pas logique de faire des trucs pareils. Et puis, au bout de quelques temps, on se rend compte que ça recrée de l'énergie. L'optimisme, c'est pareil. On peut ne pas être un optimiste dans l'âme, mais on peut décider d'adopter une conduite optimiste vis-à-vis des autres. Mais parce que simplement, souvent, il m'arrive de dire aux chefs d'entreprise, si vous pensez pas que votre optimisme puisse booster l'énergie de vos collaborateurs, essayez avec le pessimisme, vous allez voir ce que ça va donner.
Et un dernier conseil pratique, on va dire, comment on peut commencer ? Quel est le premier exercice qu'il faudrait que nous fassions pour prendre cette posture optimiste, quand on ne l'est pas ?
Je pense qu'il y en a deux. D'abord, le premier exercice, effectivement, vous parliez très justement tout à l'heure des médias, le premier exercice consiste à littéralement s'entraîner, c'est un vrai entraînement, en toutes circonstances, à faire deux choses. Et j'y mets, attention, les deux sont attachés, il faut faire les deux. En toutes circonstances, s'efforcer d'identifier dans une réalité aussi difficile soit-elle, la ressource, le point fort, la capacité, et deuxièmement, immédiatement après ou dans les minutes qui suivent, en parler à quelqu'un d'autre. Parce que la seule façon de travailler son propre optimiste, c'est d'essayer en permanence de rendre les autres, d'optimiser en quelque sorte le regard d'autrui.
C'était une interview réalisée par Jean Tonelli.